Monuments, peintures, sculptures, dessins, architecture. L'art en partage, Evelyne Ugaglia. Bonjour et bienvenue sur Esprit Occitanie. Le Parthénon. Dès qu'on s'intéresse un tout petit peu à l'Antiquité et à la Grèce antique en particulier, on a tous en tête l'image de l'acropole d'Athènes, cette colline sacrée qui domine toujours le cœur de la bruyante ville moderne et vers laquelle convergent tous les touristes et d'où émergent les fameuses ruines fort romantiques. Comment alors ne pas parler du monument le plus imposant qui s'en dégage, le fameux Parthénon, le temple dédié à la déesse Athéna ? Ceux et celles qui connaissent l'architecture des temples grecs vont penser que j'aurais pu choisir les temples de Paestum en Italie du Sud ou d'Agrigente en Sicile, certainement les temples grecs les mieux conservés. Mais le Parthénon n'est pas un temple ordinaire et c'est pour ça qu'il mérite qu'on s'y intéresse de près. Dès les périodes les plus anciennes, cette colline de l'Acropole a été un lieu d'occupation et d'habitat, puis de forteresse. Et peu à peu, elle est devenue le lieu sacré, érigé de temples, la plupart dédiés à Athéna, Athéna étant la déesse protectrice de la cité, qui avait remporté son combat contre Poséidon, le dieu de la mer, en offrant aux Athéniens l'invention de l'olivier. Un temple d'Athéna Polias, c'est-à-dire la protectrice de la cité, lui était dédié, et il conservait le Xoanon, c'est-à-dire une statue de bois, un iconique, habillé du fameux péplos, vêtement de laine tissée que lui offrait la cité tous les 4 ans, lors des fêtes en son honneur, les grandes Panathénées. Après le saccage de l'Acropole par les Perses, lors des guerres médiques de la première moitié du 5e siècle avant notre ère, ce Xoanon sera abrité dans l'Érectréion, qui est le temple dédié à Érectée, qui était le roi légendaire d'Athènes, mais où Athéna avait aussi sa place. Donc, sur l'emplacement du Parthénon actuel, préexistait un temple construit au VIe siècle avant notre ère, ainsi qu'un autre que l'on avait commencé de construire au début du Ve siècle, toujours avant Jésus-Christ bien sûr, qui était juste à côté. Mais tous deux ont été détruits en 480 par les Perses, qui étaient menés par Xerxès Ier, et bien que les Athéniens aient décidé de conserver ces ruines comme symbole de l'affront subi, elles seront remplacées quelques 50 ans plus tard par le Parthénon actuel. Ce nom, Parthénon, apparaît tardivement, au IVe siècle avant notre ère. Avant, il est appelé simplement le Temple. L'appellation Parthénon interroge donc. S'il s'agissait d'un simple temple à Athéna, on aurait dû, Athéna Parthénos, c'est-à-dire Athéna la Vierge, on aurait dû l'appeler le Parthénion, comme on a les rayons de Samos pour le temple d'Héra ou l'Artémision d'Éphèse pour celui d'Artémis ou tout à côté, l'Érectéion pour Érectée. Parthénon est donc un mot pluriel de l'adjectif qui signifie « vierge ». On peut alors entendre « la maison des jeunes filles vierges ». Et de ce fait, certains chercheurs veulent y voir, de manière tout à fait vraisemblable, me semble-t-il, une référence aux ergastines, les jeunes filles vierges qui étaient choisies tous les 4 ans par Athènes pour y tisser le fameux péplos, le vêtement qui recouvre la statue de bois. Ce qu'elles auraient fait dans la salle arrière du temple, appelée généralement Adyton, mais qu'ici on nomme Parthénon. Je reviendrai sur le plan du temple un petit peu plus tard. Cette salle, elle était aussi destinée à abriter les offrandes faites à la divinité. Donc le Parthénon n'est pas un simple temple consacré à Athéna, d'autant qu'on ne connaît pas de prêtresse attitrée ni de culte particulier. Le Parthénon serait plutôt un trésor en forme de temple, c'est-à-dire qu'il était destiné à abriter les offrandes faites à la divinité, comme le trésor des Athéniens ou le trésor des Marseillais à Delphes dans le sanctuaire d'Apollon, par exemple. Mais à Athènes, il joue un rôle éminemment politique, puisqu'il abrite aussi le trésor public de la cité d'Athènes, auquel s'ajoute en cette période qui suit immédiatement les guerres médiques contre les Perses, le trésor de la Ligue grecque, la Ligue de Délos, qui avait été transférée à Athènes depuis 454. Replaçons-nous dans le contexte. Les guerres médiques contre les Perses se sont terminées par la paix dite de Callias, en 449 avant notre ère, après la victoire d'Athènes à Salamine de Chypre. Et cette paix mettait fin à plus de 40 ans de conflits opposant les Perses et une partie des cités grecques aux cités coalisées autour d'Athènes et de Sparte dans la fameuse Ligue de Délos. Même si nombre d'historiens aujourd'hui débattent encore sur la véracité de ce traité, quoi qu'il en soit, la paix revient. En 449, Périclès est le stratège d'Athènes, c'est-à-dire qu'il est général d'armée, mais c'est aussi un homme politique. Il est à la tête du parti démocratique depuis 461 et il dirige de fait la cité en quelque sorte, et même on pourrait dire l'empire athénien qui s'est peu à peu constitué lors des guerres médiques. Son rôle politique est tel que les historiens appellent cette période le siècle de Périclès. C'est lui qui va jouer un rôle fondamental dans la construction du Parthénon. On peut dire qu'il en est à l'origine. Il est issu d'une famille athénienne, c'est un fils d'un homme politique et par sa mère descendant de la puissante famille des Alcménoïdes. Périclès est un homme cultivé, c'est un fin orateur, il est influent, mais il est démocrate convaincu. Il est l'ami des philosophes, des arts et des patriciens, au rang desquels se trouve le sculpteur Phidias. À cette époque-là, ni les sculpteurs ni les peintres d'ailleurs ne sont considérés comme des artistes. Cependant, Phidias et Périclès sont amis, et c'est donc tout naturellement vers celui qui vient d'achever la statue colossale en bronze d'Athéna Promachos, l'Athéna guerrière, la première des combattantes, que Périclès se tourne lorsque germe la nécessité de reconstruire le grand temple de l'Acropole, malgré la volonté des Athéniens de garder la mémoire de l'outrage perse. L'œuvre de Phidias, l'Athéna Promachos, dont j'ai parlé précédemment, dominait l'arrivée sur l'Acropole. Elle était installée face au propylée, qui était l'entrée monumentale de l'ère sacrée. Les architectes qui vont être choisis pour ce temple sont Ictinos et Callicratès. Le sculpteur Phidias, quant à lui, est nommé maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'il est chargé de la direction du chantier et en particulier de superviser le programme sculptural. Ictinos a également construit le temple d'Héphaïstos, qui se trouve dans le centre d'Athènes et qui est aujourd'hui transformé en église, et il serait l'inventeur de l'ordre corinthien, dont le premier chapiteau serait apparu au temple de Bassée, dans le Péloponnèse, temple qui avait été construit par lui. Callicratès sera l'architecte du temple d'Athénanikée, qui sera construit un petit peu plus tard sur l'Acropole, juste en avant des propylées. Il paraît évident que l'œuvre qui va sortir de terre a été conçue d'un commun accord par ces quatre hommes, car nous allons le voir, l'architecture du Parthénon est un modèle du genre. Rien n'y est laissé au hasard. Ce monument, entièrement construit de marbre, est hors du commun. Et il présente une décoration unique. Il a nécessité une main-d'œuvre importante, plus de 1000 ouvriers, mais aussi plusieurs ateliers de sculpteurs et de peintres, puisqu'à cette époque-là, plafonds et sculptures étaient peints. Phidias a présidé au programme iconographique de la frise dorique extérieure, comme sur celui de la frise intérieure. Il a sculpté lui-même certains panneaux, mais il n'a pas pu faire tout cela tout seul. Donc, et l'état des sculptures aujourd'hui, malheureusement, ne nous permet pas de différencier les sculpteurs tels que ses élèves, Alcamène II ou Agoracrite, par exemple, ou d'autres sculpteurs chevronnés, comme Polyclète, dont on sait pertinemment qu'il participait au chantier. Ce moment a rassemblé à Athènes des artisans venus de divers horizons. Il s'agit d'un énorme chantier fédérateur en l'honneur d'Athéna, dont la statue colossale, chryse éléphantine, c'est-à-dire d'ivoire et d'or, chef-d'œuvre de Phidias, dont je reparlerai, sera la première offrande et trônera au centre du sanctuaire. Mais plus encore peut-être, le Parthénon est un monument dédié à la gloire d'Athènes. En tout cas, c'est certainement comme ça que Périclès avait dû la concevoir. Les travaux débutent donc en 447, ils vont se terminer en 438, date de la dédicace, même si les frontons en fait ne seront achevés, semble-t-il, qu'en 434-433. Périclès va mourir de la peste en 429. Il aura donc vu le Parthénon terminé et aura pu être fier de cette œuvre, même s'il lui sera reproché d'avoir en partie utilisé l'argent de la Ligue de Délos pour le construire. Examinons un peu le monument. En fait, il s'agit d'un bâtiment rectangulaire posé sur un soubassement à 3 degrés, la crépisse, qui fait partie intégrante du monument. Donc, au pied du bâtiment, il mesure 72,31 m de long sur 33,68 m de large. Donc, il s'agit d'un monument vraiment très important pour l'époque. La façade principale, c'est-à-dire l'entrée du temple, est orientée à l'est, ce qui est assez inhabituel pour les temples de style dorique. Et on accède à cette façade principale par un escalier. Le temple est entouré d'une colonnade qui repose sur la marche haute de la crépisse. On dit qu'il est périptère, c'est-à-dire que vraiment cette colonnade entoure les quatre côtés du temple. Si la marche inférieure est en poros, qui est une variété de tuf, tout le reste est en marbre, du sol au toit. Il s'agit d'un marbre qui provient du Pentélique, une montagne qui est située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest d'Athènes et qui est un marbre de très grande qualité. Des antéfixes en forme de palmettes peintes en bleu ou en rouge décoraient les bordures latérales du toit, tandis qu'aux angles, elles prenaient la forme de bêtes de tête de lion dont la gueule servait à l'évacuation des eaux. Le temple est octostyle, c'est-à-dire qu'il a 8 colonnes qui ornent sa façade principale, comme sa façade arrière d'ailleurs, ce qui est tout à fait nouveau. Habituellement, il n'y en avait que 6. Et 10 colonnes scandent chacun des longs côtés, soit un total de 46 colonnes de style dorique composées de tambours cannelés. Il était bien évidemment que ces colonnes qui mesurent quelques 10 mètres de haut ne pouvaient pas être monolithes. Et elles supportent tout à fait en haut des chapiteaux doriques en forme de galettes aplaties en quelque sorte qui n'ont aucun décor sculpté. Ces chapiteaux soutiennent l'architrave qui court tout autour du temple, au-dessus de laquelle repose la frise composée d'une alternance de métopes et de triglyphes. Les métopes sont des plaques rectangulaires pleines, sculptées de scènes historiées, tandis que les blocs de triglyphes rappellent en fait les embouts des poutres en bois que l'on trouvait dans les temples primitifs. Et les triglyphes sont décorés de cannelures verticales terminées en gouttes. Il est à noter que cette frise, généralement cantonnée au petit côté, fait ici tout le tour du temple, ce qui est aussi une nouveauté. En façade, la frise supporte au-dessus du larmier le fronton triangulaire du temple, dont la partie centrale, pleine, le tympan, est décorée. Il en était de même sur la façade arrière. La toiture couvrait aussi bien la partie fermée du temple que les galeries, donc c'est une toiture à deux pans, à quelques 13 mètres de haut, qui était entièrement couverte de marbre, et on a même calculé que 8480 tuiles plates de 50 kg chacune avaient été nécessaires pour cette couverture, ce qui est quand même assez colossal et qui suppose évidemment un poids énorme sur les murs. Par ses proportions inhabituelles pour l'époque, la qualité des matériaux utilisés et l'originalité d'un décor historié très important, le Parthénon se distingue nettement des temples contemporains. Mais ce n'est pas tout. Pour ce temple imposant, bon, et pour qu'il paraisse totalement vertical et horizontal, les architectes ont dû corriger les défauts d'optique par toute une série de mesures très précises. Les Grecs, on le sait, n'ont pas été les derniers à s'intéresser aux mathématiques et à la géométrie en particulier. Par exemple, pour donner l'illusion de l'horizontalité parfaite de la colonnade, eh bien, le stylobate, c'est-à-dire la marche sur laquelle reposent les colonnes, était incurvé en accent circonflexe. Pour les petits côtés, le centre est situé à 6,75 cm au-dessus des extrémités. Et pour les longs côtés, à 11 cm. Et ce système, évidemment, va se répercuter obligatoirement sur les architraves qui, au lieu d'être parfaitement horizontales, sont convexes, de 12 cm par exemple au centre pour les longs côtés. Donc, même les colonnes, contrairement aux apparences, ne sont pas verticales et parallèles, mais leur axe est légèrement incliné vers l'intérieur, comme si elles convergeaient vers un point de fuite tout à fait imaginaire qui serait situé à 5 km au-dessus. Donc, toujours pour des questions d'optique, la distance entre la colonne d'angle et la suivante est ici réduite. Les colonnes d'angle sont plus épaisses et ont une inclinaison plus importante, de 10 cm environ, en raison des poussées plus fortes qu'elles reçoivent. Enfin, afin que notre œil, qui a tendance à amincir les colonnes au tiers de la hauteur, ne puisse pas le faire, eh bien, toutes les colonnes ont un renflement de 4 cm au tiers de leur hauteur en partant du bas. Donc, vous voyez, tout était absolument calculé au millimètre près, je dirais, même si ce n'était pas l'unité de mesure de l'époque. La conséquence est importante, car cela signifie, si on prend ainsi en compte l'inclinaison pour chaque colonne, qu'aucun tambour n'est interchangeable. Donc vous imaginez la complexité de la fabrication et de la construction. Pour réaliser un tel projet, une maquette était forcément nécessaire pour donner des dimensions et l'inclinaison juste de chaque tambour. Et c'est ce qui fait que le chantier actuel de restauration, qui a été entrepris depuis plusieurs années, soit si long et si coûteux. D'autant plus que pour les murs, c'est à peu près pareil. Aucun bloc de marbre n'est rigoureusement parallélépipédique. Il est absolument impossible d'intervertir deux tambours ou deux blocs sous peine de nuire à, non seulement à la solidité, mais aussi à l'esthétique du temple. C'est en cela que ce monument est tout à fait exceptionnel. Ces corrections jouent aussi un rôle architectural puisqu'elles permettent une meilleure stabilité de l'édifice et elles favorisent l'écoulement des eaux par la courbure du sol. En revanche, ces mesures rendent délicates non seulement la taille des blocs, mais aussi leur empilement et leur jointement. Il fallait pouvoir ajuster chaque tambour de plus d'une tonne à son prédécesseur. Il n'y a pas de joint de mortier. Tout est ajusté au millimètre. On encastrait au centre de chaque bloc un demi-cube en bois de cyprès, avec au centre une broche métallique en bronze, scellée avec du plomb fondu, qui devait s'ajuster sur une clavette en bois de cèdre, contenue dans le demi-cube du tambour opposé, ce qui supposait une très grande dextérité. Et avec les moyens de levage dont on disposait à l'époque, nous ne pouvons qu'être admiratifs.
Merci beaucoup.
Génial et émouvant Michel Petrucciani, célèbre pianiste de jazz qui nous a quittés, hélas, il y a juste 20 ans, dans son interprétation en public en 1997 de Caravan de Duke Ellington. Vous êtes toujours sur Esprit Occitanie, l'art en partage. Aujourd'hui, je vous présente un monument exceptionnel, le célèbre Parthénon d'Athènes, voulu au milieu du 5e siècle avant notre ère, par le stratège Périclès, conçu par les architectes Ictinos et Callicratès et sculpté par et sous la direction du sculpteur Phidias. On a parlé surtout de la colonnade extérieure. Examinons maintenant l'intérieur du monument, le sékos, ou sanctuaire à proprement parler, qui était surélevé de 2 marches. Il est amphiprostyle, c'est-à-dire orné d'une colonnade de 6 colonnes sur les 2 petits côtés. D'est en ouest, le sékos est divisé en 5 espaces, le pronaos, formé par la colonnade de façade qui ouvre sur le naos, le sanctuaire réellement, qui est le lieu d'hébergement de la statue de culte, qui est ici divisé en 3 nefs, et la nef centrale mesurait 11 mètres de long, ce qui est tout à fait exceptionnel pour l'époque. Elle était entourée d'une colonnade sur 3 côtés. Malgré les 2 hautes fenêtres qui encadrent la porte, cet espace devait être assez sombre en réalité. Et aux 2 tiers de la nef, mais parfaitement au centre de l'ensemble du monument, se trouvait la statue colossale d'Athéna, sculptée par Phidias. Ici, cependant, il ne s'agit pas du tout d'une statue de culte. On ne connaît d'ailleurs aucun rite particulier à son égard. Cette statue est une offrande et un trésor en soi. Je vais y revenir. Derrière le naos, et sans aucune communication avec lui, se trouvait l'Aditon, cette salle plus petite dont le plafond était supporté par 4 colonnes, qui abritait le trésor public d'Athènes, ainsi que celui de la Ligue de Délos, mais aussi éventuellement les fameuses ergastines, c'est-à-dire les jeunes filles vierges qui tissaient le péplos d'Athéna. On comprend alors que l'Aditon soit devenu la maison des vierges, soit le Parthénon proprement dit. Donc, cette salle s'ouvrait à l'ouest du temple par un portique à 6 colonnes, identique au pronaos, qu'on appelle l'opistodome, qui mot à mot veut dire la maison de l'arrière. À l'extérieur du sékos courait sur les 4 faces une frise ionique, qui était totalement continue et sculptée et peinte, qui représente la procession des grandes panathénées qui avait lieu tous les 4 ans. Elle s'achève sur la façade principale par la présentation du péplos à l'archonte roi en présence d'Athéna et de l'assemblée des dieux. Cet emplacement pour une frise est là encore totalement exceptionnel. C'est une caractéristique supplémentaire de ce monument hors norme. Sur les frontons, l'histoire d'Athéna était sculptée en haut relief, sa naissance en présence des dieux de l'Olympe sur le fronton oriental et la fameuse dispute avec Poséidon sur le fronton occidental. Je vous propose d'étudier la sculpture du monument dans une prochaine émission et de nous attarder uniquement sur la fameuse statue chryséléphantine d'Athéna, c'est-à-dire composée d'ivoire pour les chairs, d'or pour le vêtement, le tout plaqué sur une âme de bois de cyprès. Cette sculpture était colossale et nous en avons une description par Pline l'Ancien, qui est très importante puisque la statue a bien sûr disparu. On en connaît une réplique de moindre dimension qu'on appelle l'Athéna Varvakeion, du nom de l'établissement scolaire près duquel elle fut découverte à Athènes en 1880. L'original reposait sur une base en tuf de 8 mètres sur 4 et de 1,30 m à 1,50 m de haut. Sur la façade de la base était représentée la naissance de Pandora, la fille d'Érectée, qui était le 6e roi, donc légendaire d'Athènes, qui, avec d'autres jeunes filles, se serait sacrifiée pour sa patrie, et qui n'a rien à voir avec la Pandore produite par les dieux. La statue, elle, mesurait 26 coudées, c'est-à-dire 10 mètres de haut, sans la base. Donc elle culminait quelque part à 11,50 m, environ 1,50 m au-dessous du plafond. D'après les comptes qui nous sont parvenus, elle aurait coûté 700 talents. Ce qui équivaut au coût de 200 trières, la trière étant un bateau de guerre athénien, on se rend compte de la fortune que cela représentait. Mais elle était en soi une réserve d'or, puisque tout l'or qui la recouvrait en fines plaques pouvait être utilisé à tout moment. Athéna est représentée debout, de face, la jambe droite en appui, la jambe gauche fléchie et le pied en retrait, posant en équilibre sur le bout des orteils, ce qui est une nouveauté stylistique pour l'époque. Le buste était pleinement de face, les épaules horizontales, le visage regardant loin devant. La tête et les bras sont en ivoire et ils émergent du vêtement qui est un lourd péplos entrouvert sur le côté droit qui est constitué de centaines de plaques d'or. Un véritable travail d'orfèvre en réalité puisqu'on ne devait certainement pas voir le moindre joint. Sur la poitrine, elle porte l'égide bordée de serpents, avec au centre la tête de Gorgone qui, elle, était en ivoire. Et la couleur perse légendaire des yeux de la déesse est évoquée par des pierres précieuses de couleur. Dans sa main gauche, elle retient le lourd bouclier d'ivoire qui était appuyé contre elle, et dans la main droite, tendue, elle présente une statue de 2 mètres représentant Nike, la victoire, tenant une couronne de laurier en or destinée à la déesse. Athéna est coiffée d'un casque attique surmonté de 3 cimiers aux bases décorées. Deux chevaux ailés encadrent une sphinx centrale. Sur l'épaisse tranche de ses sandales avait pris place une centauromachie, c'est-à-dire le combat avec les centaures. À gauche de ses pieds se levait le serpent sacré, tandis que sur le bouclier de 5 mètres de diamètre environ était sculptée une amazonomachie, c'est-à-dire le combat des Grecs contre les Amazones. Et une scène de gigantomachie, la lutte contre les géants, était peinte à l'intérieur, qui était nettement moins visible, à l'intérieur du bouclier, pardon, qui était nettement moins visible. Donc, ces scènes, en référence au mythe, symbolisent la victoire de l'intelligence et de la civilisation grecque sur le chaos primitif, le désordre et la barbarie. Est-ce qu'on doit y voir une allusion à la victoire des Grecs sur les Perses ? Peut-être, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, la statue évoquait certainement à la fois la sagesse d'Athènes, sa piété, mais aussi, par les matériaux employés, sa puissance économique et navale, justement à la fin des guerres en particulier, où elle était sortie un petit peu à la tête d'un empire. Donc la statue est à la fois le trésor de la cité et son symbole. L'ivoire est un matériau fragile, qui se craquelle facilement, tous les conservateurs pourront vous le dire. Aussi, toutes les parties en ivoire étaient régulièrement enduites d'huile et on avait installé devant la statue un bassin plus grand que le socle de l'œuvre, qui était rempli d'eau et qui était chargé d'apporter l'humidité nécessaire à sa conservation. De plus, il jouait l'effet de miroir et il renvoyait la lumière qui arrivait de la porte sur la divinité, ce qui, bien entendu, devait accroître son aura. Donc la statue est restée en place pendant plusieurs siècles, vers le 5e siècle de notre ère, à une date un peu indéterminée. Elle aurait été emportée à Constantinople par un empereur romain. Après quoi, on perd sa trace. On peut imaginer qu'elle a été pillée de son or et qu'elle ne devait plus avoir, hélas, beaucoup d'intérêt. Et le temple lui-même était abandonné, mais nous en reparlerons en étudiant sa sculpture. C'était l'art en partage. Une émission animée par Evelyne Ugaglia, à la technique Hugo Pépitone, que je remercie chaleureusement. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de la radio Esprit Occitanie, ainsi bien sûr que sur le site de la station et les podcaster à loisir. À bientôt.